en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Une réflexion sur la notion de prévision s'impose en raison des malentendus dont la racine commune est la naïveté qui caractérise la plupart des discours sur l'avenir. On l'a bien vu typiquement à la suite des événements de l'hiver 2010-2011, curieusement qualifiés de printemps arabe, qui, à partir d'un incident quelque part en Tunisie, ont provoqué la chute de Ben Ali, puis celle de Hosni Moubarak en Égypte, et mis en mouvement d'autres forces, comme en Libye ou en Syrie. Que n'a-t-on entendu alors sur l'incompétence des diplomates ou sur la cécité des prévisionnistes ? Ces polémiques ont l'intérêt de faire ressortir la nécessité d'une réflexion comme celle de la communication d'aujourd'hui. J'aborderai le sujet très en amont en invoquant les quatre préceptes de la méthode selon Descartes, qui fondent l'esprit de géométrie, et surtout le texte de Pascal sur l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Permettez-moi de vous lire, bien qu'il soit très connu, ce dernier, je cite. « Ce qui fait donc que de certains esprits fins ne sont pas géomètres, c'est qu'ils ne peuvent du tout se tourner vers les principes de géométrie. Mais ce qui fait que des géomètres ne sont pas fins, c'est qu'ils ne voient pas ce qui est devant eux, et qu'étant accoutumés aux principes nets et grossiers de géométrie, et à ne raisonner qu'après avoir bien vu et manié leurs principes, ils se perdent dans les choses de la finesse, où les principes ne se laissent pas ainsi manier. On les voit à peine, on les sent plutôt qu'on ne les voit. On a des peines infinies à les faire sentir à ceux qui ne les sentent pas d'eux-mêmes. Ce sont choses tellement délicates et si nombreuses qu'il faut un sens bien délicat et bien net pour les sentir et juger droit et juste selon ce sentiment, sans pouvoir le plus souvent les démontrer par ordre comme en géométrie, parce qu'on n'en possède pas ainsi les principes et que ce serait une chose infinie de l'entreprendre. Il faut tout d'un coup voir la chose d'un seul regard et non pas par progrès de raisonnement, au moins jusqu'à un certain degré. Et ainsi, il est rare que les géomètres soient fins et que les fins soient géomètres, à cause que les géomètres veulent traiter géométriquement les choses fines et se rendent ridicules. Voulant commencer par les définitions et ensuite par les principes, ce qui n'est pas la manière d'agir en cette sorte de raisonnement. Ce n'est pas que l'esprit ne le fasse, mais il le fait tacitement, naturellement et sans art, car l'expression en passe tous les hommes et le sentiment n'en appartient qu'à peu d'hommes. Et les esprits fins, au contraire, ayant ainsi accoutumé à juger d'une seule vue, sont si étonnés quand on leur présente des propositions où ils ne comprennent rien, et où pour entrer il faut passer par des définitions et des principes si stériles qu'ils n'ont point accoutumé de voir ainsi en détail, qu'ils s'en rebutent et s'en dégoûtent. Fin de citation. Tout est dans cette citation. À la limite, je pourrais m'arrêter maintenant. Alors Pascal poursuit, citation, « Les esprits faux ne sont jamais ni fins ni géomètres ». Fin de citation. C'est-à-dire qu'ils se perdent dans la logique autant qu'ils ne voient rien. Ainsi d'ailleurs peut-on définir l'esprit faux. Et, citation encore, s'il est rare que les géomètres soient fins et que les fins soient géomètres, fin de citation, cela arrive, l'auteur de l'essai sur les coniques à 16 ans et des pensées, cet effrayant génie, disait Chateaubriand, en est un prodigieux exemple, et les heureux esprits ainsi coiffés de la double casquette peuvent être qualifiés de justes. Dans les meilleurs des cas, on peut même dire qu'ils sont sages, ce qui n'implique pas qu'ils soient écoutés. J'ajouterai que l'expérience des plus grands découvreurs scientifiques montre que l'intuition précède généralement la raison, laquelle joue plutôt le rôle de vérificateur. En ce sens, nul ne peut être un grand géomètre s'il ne possède une certaine finesse, c'est-à-dire une qualité de vision exceptionnelle, au moins dans certaines directions. Tout cela étant dit, il arrive aux plus grands géomètres de commettre des erreurs de raisonnement, et même les plus fins d'entre les fins n'ont pas la vue parfaite dans toutes les directions. Autrement dit, les esprits les plus justes peuvent se tromper quelquefois. Dans la vie mondaine que méprisait Pascal, les fins sont à l'évidence mieux placés pour réussir que les géomètres, et s'ils pratiquent en maître la voie basse, indigne et étrangère de l'art d'agréer, cela donne des personnages comme son contemporain Mazarin, ou plus tard Talleyrand ou Mitterrand. L'art d'agréer, c'est celui de plaire et de convaincre, fort éloigné de la démonstration. Or, nul ne peut prétendre gouverner les hommes s'il ne possède cet art. J'en viens maintenant à la thèse que je développerai dans la suite. L'analyse et la prévision, prises comme un tout, est un art dont la pratique suppose toujours une combinaison d'esprit de géométrie et d'esprit de finesse, dans des proportions variables en fonction de la nature du problème traité. Je suppose qu'il a fallu des deux à ceux de nos ancêtres qui ont identifié nettement les régularités, comme la succession des jours et des nuits, leur inégalité en fonction des saisons, les rapports entre climat, saison, faune et flore, les vertus médicinales ou au contraire le danger des plantes, etc. Avec la révolution scientifique, le regard des observateurs a dû se faire plus acéré, entraînant une montée en importance de l'esprit de géométrie, sans doute aux dépens de l'esprit de finesse, même si un homme comme Kepler était astrologue plus encore qu'astronome. Les trois lois remarquables de précision géométrique auxquelles son nom reste attaché ont été formulées comme des faits d'expérience, établis à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui une base de données, comme les astrologues et les astronomes en ont constitué depuis les temps les plus reculés. Quelques décennies plus tard, dans son ouvrage « Des principes mathématiques de la philosophie naturelle », Isaac Newton, un titan dans l'ordre de l'esprit de géométrie, énonça la loi de la gravitation universelle. Cette loi permet de démontrer les lois de Kepler et de prévoir, au sens le plus fort de ce terme, d'innombrables phénomènes précédemment inenvisagés, comme les orbites paraboliques ou hyperboliques de certaines comètes. Tel est le point de départ de la mécanique céleste. Une démarche proprement cartésienne permet ainsi d'aboutir à des prévisions époustouflantes. Pour autant, ces prévisions ne sont pas parfaites. Les lois de Kepler ne sont exactes que dans le cas de l'attraction mutuelle de deux corps, le Soleil et la Terre par exemple, en les supposant rigoureusement seuls dans le vide. Or, à s'en tenir au seul système solaire, c'est-à-dire en ignorant le reste de notre galaxie ou a fortiori les autres galaxies, il y a plusieurs planètes qui s'attirent mutuellement et certaines ont un ou plusieurs satellites, la Lune dans le cas de la Terre. Le triomphe de la mécanique céleste, entre les mains de génies comme Pierre-Simon de Laplace, a été d'introduire des méthodes mathématiques permettant de calculer les perturbations apportées par ces interactions accessoires. Grâce à ces méthodes et de nos jours à la puissance de calcul des ordinateurs, on peut prévoir avec une remarquable précision, des centaines d'années à l'avance, les trajectoires des planètes, les phénomènes comme les éclipses, etc. Mieux encore, l'étude attentive des anomalies dans les perturbations du mouvement de la planète Uranus, découverte par Herschel en 1781, a conduit l'astronome français Le Verrier à prévoir l'existence de Neptune, effectivement confirmée en 1846. On remarquera que dans ce qui précède, nous avons utilisé le concept de prévision tantôt dans un sens faible, par exemple date des éclipses, tantôt dans un autre beaucoup plus fort, trajectoire hyperbolique des comètes, découverte d'une nouvelle planète. Du point de vue qui nous intéresse ici, le premier est manifestement le plus important, mais le second est fascinant et établit un pont entre prévision et découverte. Pour autant, même en mécanique céleste, il existe des limites absolues à la capacité de prévoir. À la fin du XIXe siècle, Henri Poincaré a démontré que le problème des trois corps, par exemple le Soleil, la Terre et la Lune, était structurellement instable. En termes simples, une modification même infime des coordonnées planétaires, position, vitesse, à une date quelconque, est susceptible d'entraîner à une date ultérieure incalculable à l'avance, puisque tout calcul est approché, c'est-à-dire équivalent à une petite modification des données initiales, une véritable bifurcation de la trajectoire, dont la morphologie peut brusquement devenir radicalement différente. Telle est l'origine de la théorie du chaos, dont la raison profonde est la non-linéarité des phénomènes, c'est-à-dire la non-proportionnalité des causes et des effets. Nous pouvons être rassurés sur le devenir du système solaire à l'horizon de quelques millénaires. C'est la bonne nouvelle du jour, d'ailleurs. Mais pas à l'échelle des millions d'années, très inférieure pourtant à l'espérance de vie du Soleil. Parmi les phénomènes courants marqués par les non-linéarités, je citerai les mouvements atmosphériques. Il est par exemple encore impossible de prévoir des incidents comme certaines tornades locales très violentes, alors même que l'on est capable d'écrire rigoureusement les équations de la mécanique des fluides. C'est d'ailleurs un météorologue, Edwards Lorenz, qui a popularisé l'idée de chaos en 1963 avec la métaphore de l'effet papillon. À mesure que s'approfondissait l'étude du chaos, une nouvelle discipline s'est constituée sous le nom de complexité. La non-linéarité, les bifurcations brusques et imprévisibles, le chaos en constitue l'essence. Bien qu'il soit sage de ne manier les analogies qu'avec prudence, je soulignerai dès maintenant que la plupart des interactions à l'intérieur des sociétés humaines doivent être considérées comme complexes. Et l'on comprend intuitivement pourquoi nous nous trouvons si souvent surpris par des bifurcations dont on pouvait à la rigueur imaginer la possibilité, mais qu'il était radicalement vain de chercher à dater. Et en effet, comment pourrait-on espérer faire mieux pour anticiper le moment d'une révolution que pour prévoir le jour et l'heure du prochain tremblement de terre majeur à Tokyo ou de la prochaine tornade dans une certaine commune de la Belgique ? Remarquons cependant que la tragédie du chaos est atténuée dans certaines classes de phénomènes par les mécanismes de rétroaction ou de défense, comme on dit en biologie, et le cas échéant, la possibilité d'exercer des actions dites de contrôle. La théorie du contrôle est une discipline mathématique qui est née et s'est considérablement développée au XXe siècle. Ses applications sont multiples. Pour rester dans l'ordre de la mécanique céleste, je citerai la navigation spatiale. Toujours par analogie, on peut interpréter le problème général de la gouvernance des sociétés humaines comme un problème de contrôle. Après cette brève discussion de la non-linéarité, je citerai encore plus succinctement une autre cause tout aussi essentielle de limitation à la capacité de prévoir. Du point de vue de l'esprit de géométrie, toute prévision est en effet attachée à une théorie. Nous venons de mentionner l'immense succès de la mécanique céleste fondée sur la théorie newtonienne de la gravitation, et l'on comprend que certains penseurs, parmi les plus éminents, aient pu se laisser griser par d'aussi admirables prouesses. Avec les lois établissant l'identité de l'électromagnétisme et de la lumière, synthétisées en 1864 par James Maxwell dans les quatre équations d'une esthétique sublime qui porte son nom, on avait pu croire que le temple de la physique achevait. Mais la science est une tour de Babel. Le sommet n'en est jamais atteint et l'orgueil qu'elle suscite est passible de punition. L'histoire de la théorie de la relativité et celle de la mécanique quantique illustrent ces deux aspects. Passons maintenant plus explicitement aux sciences morales et politiques avec l'exemple de l'économie. En pratique, cette discipline se laisse couramment diviser en deux grandes branches, bien que ce soit contestable au niveau le plus fondamental de la réflexion. La microéconomie et la macroéconomie. La première, dont l'un des sommets les plus élevés est la théorie des jeux, élabore des modèles abstraits d'interaction entre des agents considérés comme des décideurs individuels, représentés par des sortes de robots, producteurs par exemple identifiés à leur fonction de production, consommateurs à leur fonction d'utilité. On en déduit des enseignements pertinents pour le fonctionnement des économies réelles, par exemple pour comprendre la loi de l'offre et de la demande ou pour démontrer, entre guillemets, la supériorité des économies de marché sur les économies à planification centralisée, une question fort sensible à l'époque de la guerre froide, ou encore pour analyser les avantages de l'ouverture des frontières et du commerce international et, à l'inverse, les inconvénients du protectionnisme. La macroéconomie raisonne sur des catégories agrégées d'agents, par exemple ménages, entreprises, institutions financières, administrations, et se concentre sur un petit nombre de questions importantes pour la politique économique des États et des institutions interétatiques, comme la croissance et donc le progrès technique, l'emploi, la distribution des revenus, l'inflation ou l'équilibre de la balance des paiements. En théorie économique, la robotisation s'étend jusqu'à la manière dont on représente fort géométriquement et souvent fort élégamment la notion de prévision, typiquement dans le modèle des anticipations rationnelles. La comptabilité nationale s'est développée pendant le second XXe siècle pour permettre à l'économie de se rapprocher des sciences expérimentales. L'économétrie est la branche de la statistique mathématique adaptée à la confrontation des modèles avec des bases de données. Un aspect particulier de l'économétrie est dévolu à la question de la prévision dans ce contexte. Je me bornerai à ce sujet à remarquer que l'on ne doit pas confondre deux sources d'incertitude. L'une revient à la notion proprement statistique d'intervalle de confiance dans le cadre d'un modèle supposé exact et utilisant des données supposées parfaitement fiables ou entachées d'erreurs probabilisables. L'autre, beaucoup plus fondamentale et trop généralement ignorée, est le degré de pertinence du modèle lui-même et ne se laisse pas cerner en termes de probabilité. L'analyse et la prévision dans le cadre d'un modèle donné est affaire de géométrie. Le choix d'un bon modèle est affaire de finesse. Et tant il est vrai, comme on l'a vu, qu'il est rare que les géomètres soient fins et que les fins soient géomètres, l'économétrie n'a pas porté les fruits qu'en attendaient même de grands esprits comme Paul Samuelson, le plus célèbre des économistes du XXe siècle après Keynes. Comme bien d'autres, en effet, Samuelson avait pendant un temps cédé à l'illusion de croire que grâce au progrès de la macroéconomie et de l'économétrie, la précision de la prévision en économie approcherait celle de la mécanique céleste et que l'on pourrait ainsi élaborer et mettre en œuvre des politiques économiques quasi parfaites, croissance et plein emploi sans inflation, ni déséquilibre de la balance des paiements, etc. Je peux témoigner directement d'une conversation avec lui sur ce sujet dans les années 80. Et s'il n'y avait eu cette croyance dans le troisième quart du XXe siècle, il est peu probable que le prix Nobel d'économie eût jamais été créé. Plus récemment, Après les succès initiaux de la mondialisation et la chute du système soviétique, et donc l'échec du socialisme prétendument scientifique, le monde a été temporairement submergé par une variante opposée de la même idéologie, celle de la fin de l'histoire. Tout cela s'est effondré avec la crise de 2008 et le retour du spectre des années 30 du siècle passé. Dans sa monumentale History of Economic Analysis, publiée en 1954 après sa mort, traduite, je crois, sous la direction de Jean-Claude Casanova, en français, Joseph Schumpeter, dont la gloire a été injustement supplantée par celle de son contemporain John Maynard Keynes, classe les méthodes de sa discipline en trois catégories principales, l'histoire, la statistique et la théorie. Il en a ultérieurement rajouté une quatrième, la sociologie économique. L'histoire économique est pour Schumpeter la catégorie essentielle pour trois raisons. Premièrement, la matière de l'économie est un processus historique unique. Il faut à la fois connaître les faits relatifs au passé et posséder ce que l'auteur appelle un sens de l'histoire. Deuxièmement, la connaissance de l'histoire économique est la meilleure approche pour saisir l'interaction des phénomènes économiques avec les autres phénomènes sociaux. Enfin, notre auteur attribue la plupart des erreurs importantes commises par les économistes au manque d'expérience historique. Plus généralement, toute connaissance procède essentiellement de comparaisons dans le temps, analyse diachronique, et dans l'espace, analyse synchronique. Dans un important ouvrage publié en 2009, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff étudient systématiquement des centaines de crises financières ayant affecté 66 pays à travers 5 continents au cours de 8 siècles. Malgré les controverses statistiques que leur étude a suscitées, leur conclusion paraît sans appel, je cite, « L'accumulation excessive de dettes, que ce soit par les gouvernements, les banques, les entreprises ou les consommateurs, crée souvent un risque systémique plus grand qu'il ne paraît pendant une phase d'expansion. De telles accumulations à grande échelle engendrent des risques parce qu'elles rendent l'économie vulnérable aux crises de confiance, en particulier quand la dette est à court terme et doit être constamment refinancée. » Fin de citation. Il y a dans ce propos un point essentiel pour la notion de prévision. Reinhart et Rogoff dénoncent les dangers d'un endettement excessif, mais il faut se garder de définir des seuils précis. Ils disent en substance qu'une crise de confiance a toutes les chances de se produire à partir d'un incident quelconque sans qu'on puisse relier cette prévision à un niveau précis de l'endettement en question. On retrouve ainsi la notion de non-linéarité par laquelle j'ai commencé. Mais de même que l'on connaît les failles le long desquelles peuvent se produire des tremblements de terre, de même on sait que les pays lourdement endettés sont menacés par des crises de confiance. Contrairement à l'exemple géologique, nous sommes ici dans une situation que l'on pourrait prévenir. En l'occurrence, avant 2008, les économistes n'ont globalement pas joué leur rôle, les plus audibles étant restés enfermés dans les doctrines monétarisme ou keynésianisme insuffisamment sensibles à l'expérience historique. Et les voix qui ont pu tirer la sonnette d'alarme n'étaient pas suffisamment libres ou influentes pour l'emporter sur la préférence générale des politiques pour la facilité et le court-termisme. La crise de 2008, amplifiée en raison de la généralité du phénomène de l'endettement, illustre à la perfection le premier point de Schumpeter, où il est clair qu'il s'agit bien davantage d'esprit de finesse que d'esprit de géométrie. En seconde position, Schumpeter cite la statistique, c'est-à-dire la constitution de bases de données relatives aux principaux phénomènes économiques. Je n'insiste pas sur ce sujet. La plupart des pays, en particulier les plus grands, ont créé divers instituts à cet effet. En troisième lieu, la théorie. En économie, comme dans d'autres domaines, le mot « théorie » a deux acceptions pertinentes. Pour l'une, il s'agit des hypothèses explicatives familières aux historiens, Pirenne, Brodel, etc. Et comme le remarque Schumpeter, l'historien le plus attaché aux faits n'évite pas de formuler de telles hypothèses, de même que le statisticien structure généralement ses données à partir d'une base conceptuelle plus ou moins explicitée. La deuxième exception est plus riche. La théorie économique est conçue comme un ensemble de modèles logiquement cohérents et suggérés par des faits plus ou moins stylisés, quoique, avec ou sans appel à l'économétrie, le lien entre le modèle et les faits soit en général infiniment plus lâche que dans le cas des sciences de la nature. Ainsi, naguère encore, tous les étudiants en économie étaient-ils principalement exposés au modèle classique, au modèle keynésien ou encore à la synthèse néoclassique. Aucun de ces modèles, qui vise à comparer les mérites respectifs ou conjoints des politiques monétaires et budgétaires, n'incluait l'endettement dans ces équations. Il reste encore plus utile au pluriel, ces modèles restent encore plus utiles pour, fort utiles pour réfléchir à la politique économique, toute la difficulté pour l'utilisateur étant de manier finement ces êtres géométriques. Schumpeter dénonçait vigoureusement les dangers des applications qu'il appelait irresponsables de la théorie aux problèmes pratiques. On en revient à l'importance de l'histoire et de l'expérience, comme celle des banques centrales ou d'une institution comme le Fonds monétaire international, et à la nécessité de débats structurés. Ce dernier point est capital, car dans un pays comme la France, où l'idéologie prime sur la culture dans le domaine économique, l'opinion publique a tendance à percevoir les économistes ayant pignon sur rue comme les médecins de Molière qui dissimulent leur ignorance derrière un vocabulaire abscon et s'acharnent à se contredire les uns les autres, alors qu'ils devraient s'imposer de mettre en lumière les zones d'accord et de relativiser les points de divergence. J'en arrive enfin à un domaine où je serais tenté de transposer une formule célèbre et d'afficher que nul n'y entre s'il n'a l'esprit de finesse. Il s'agit du politique, la res publica, c'est-à-dire la chose publique, ce qui concerne les unités actives en tant que telles, particulièrement celles qui se considèrent souveraines, c'est-à-dire les unités politiques, ainsi que les systèmes d'unités actives, en particulier les relations internationales. Comme dans tous les domaines, l'analyse et la prévision ou prédiction s'effectuent ici à différentes échelles. À l'échelle macroscopique, on considère des unités actives, voire des systèmes d'unités actives, comme des touts, que l'on peut caractériser au moyen d'un petit nombre de critères. Pour un État, il s'agira par exemple des données géographiques et démographiques de base, y compris ethniques, ou plus généralement des facteurs de puissance ou de faiblesse, ou encore de la nature du régime politique. Pour une alliance militaire, par exemple le traité de sécurité mutuelle entre les États-Unis et le Japon, ou pour un cartel, par exemple l'OPEP, il s'agira de son objet, de son histoire et de son environnement, de sa composition et de son organisation. Avec un bon choix de critères, et c'est là que la finesse commence à intervenir, on peut déjà formuler des prévisions, prédictions sérieuses. Ainsi sait-on que tout régime autoritaire, ou a fortiori totalitaire, finit par disparaître, que tout empire périra, titre d'un livre de notre confrère Jean-Baptiste Durosel, ou que tout cartel est instable et donc susceptible de se désintégrer. La théorie élémentaire des jeux éclaire bien ce genre de situation. Encore faut-il pousser l'analyse un cran plus loin, ce qui requiert un surcroît de finesse. Comment caractériser le régime algérien sous le quatrième mandat du président Bouteflika ? Qu'est-ce qu'un empire ? Faut-il considérer l'Union soviétique d'autrefois ou la République populaire de Chine d'aujourd'hui comme des empires ? Comment préciser les fragilités de la Russie post-soviétique ? Quel est le rapport des forces au sein de l'OPEP ? Et comment juger les influences extérieures qui s'exercent sur cette organisation ? La réponse à ce genre de questions ne saurait résulter directement d'une collecte de données comme pour un expérimentateur ou un ingénieur face à une réaction chimique. C'est tout l'art du jugement ou de l'intuition qui n'a, à mon avis, qu'un lointain rapport avec la distinction « thinking fast and slow » du psychologue et prix Nobel d'économie Daniel Kahneman ou avec le point de vue de notre défunt confrère Raymond Boudon, selon lequel l'intuition n'est que de la rationalité compressée. Je ne crois pas que l'on puisse comparer l'analyste s'interrogeant en 1980 sur la survie de l'Union soviétique et le capitaine de pompiers ordonnant à ses hommes d'évacuer le plancher d'une maison en flammes quelques secondes avant qu'il ne s'écroule. Exemple pris par Kahneman. Dans le premier cas, il s'agit d'une situation historique particulière et donc unique. Le fait est qu'aucun analyste de renom, pas même Raymond Aron, n'avait osé formuler l'hypothèse d'un écroulement rapide de l'Union soviétique. Dans le second cas, on a affaire à une situation répétitive, c'est les pompiers, où donc les réflexes peuvent s'éduquer, certes avec plus ou moins de bonheur selon les sujets. Ces deux cas sont entre eux comme la stratégie et la tactique. Le point essentiel derrière cette discussion est le facteur temps. Une chose est de prévoir ou de prédire l'écroulement d'une dictature, Ben Ali, Assad, ou d'un empire, avec la chute de l'Union soviétique. Il y a en fait deux phénomènes, la décomposition d'un régime et effectivement celle d'un empire. Sous couvert d'une affirmation particulière, on ne fait en réalité que formuler un syllogisme. Tout empire finit par s'écrouler, or l'URSS est un empire, donc l'URSS finira par s'écrouler. Pour que la prédiction soit bonne, il suffit d'avoir correctement qualifié le sujet, l'URSS dans cet exemple. Tout autre chose est la datation de l'événement ou des événements ainsi annoncés. Nous sommes ici dans une situation très différente de la physique. Même si la décomposition des éléments radioactifs, par exemple, ne peut individuellement s'analyser qu'en termes probabilistes, au sens précis de la théorie mathématique des probabilités. Dans ce type de situation, la loi des grands nombres, l'un des résultats les plus fondamentaux de la théorie des probabilités, permet de convertir des probabilités à l'échelle microscopique en certitudes à l'échelle macroscopique. Affirmer en 1980 que l'Union soviétique était condamnée à périr n'avait aucune portée pratique, si l'on était incapable de préciser, au moins en termes subjectifs, la probabilité et les modalités de cette mort à un horizon rapproché, par exemple avant la fin du siècle. C'est pourquoi les événements de 1989-91, la chute du mur et la dissolution de l'URSS, sont un parfait exemple de ce que, dans son livre sympathiquement provoquant sur la puissance de l'imprévisibilité, Nassim Nicholas Taleb appelle un signe noir, c'est-à-dire un événement de grande portée que l'on n'avait pas imaginé ou que l'on avait considéré comme pratiquement impossible. Cela dit, même s'agissant d'événements comme la chute d'un régime dictatorial ou totalitaire, il peut être possible, dans certaines conditions, en changeant légèrement d'échelle, de réduire le degré d'incertitude. Au moins depuis Paul Valéry, on sait combien il faut se méfier des leçons de l'histoire. Le moindre des charmes de cette discipline n'est pourtant pas qu'en offrant une multitude d'études de cas, elle rend possible entre des mains habiles la formulation de lois qu'il ne faut certes pas confondre avec celles de la nature, mais qui peuvent utilement guider des analystes suffisamment fins. On peut en formuler de nombreuses et j'en ai déjà donné des exemples. J'en ajouterai trois autres. J'appelle le premier paradoxe de Tocqueville. D'un côté, on peut affirmer que tout régime sclérosé ne peut éviter la mort brutale que par des réformes. De l'autre, il n'est jamais aussi vulnérable qu'au moment où il les entreprend. Tocqueville a formulé cette loi dans le contexte des révolutions européennes de 1848, mais son caractère a une portée universelle. Son corollaire est qu'il faut réformer en position de force et non de faiblesse, ce qu'avait compris Bismarck ou Deng Xiaoping, certainement pas Gorbatchev. Reste pour l'analyse où le prévisionniste a bien appréhendé la situation d'un régime face aux réformes. Quid, par exemple, de l'avenir de la Birmanie ou, a fortiori, de la Corée du Nord. On échappe d'autant moins à l'impératif catégorique de la finesse que l'esprit renacle à faire évoluer ses propres structures, « mindset » en anglais, et à saisir en temps réel le changement de son environnement, ce qui, évidemment, biaise le jugement ou même le paralyse. Un esprit qui serait suffisamment souple pour s'adapter immédiatement aux méandres de son environnement utile, en captant et en interprétant correctement un minimum de ce qu'on appelle les signaux faibles, serait moins démuni devant les signes noirs. Comme, sans doute pour les raisons psychologiques et même vraisemblablement biologiques profondes, rares sont les personnes suffisamment flexibles et sensibles, celles qui le sont courent le risque de l'isolement. La deuxième loi, également due à Tocqueville, dans le cadre de son étude sur l'Ancien Régime et la Révolution, stipule qu'après une révolution, les nouvelles élites tendent à imiter celles qui ont été chassées. La troisième pourrait s'énoncer, ce sont toujours les mêmes qui sont du bon côté. L'histoire de la Révolution française, par exemple, montre que les plus habiles, comme Talleyrand ou Fouché, se retrouvent toujours du côté du pouvoir, même à travers les circonstances les plus dramatiques. La barre de survie, si l'on peut dire, est beaucoup moins haute quand un régime ne sombre pas dans la décomposition violente, mais sous l'effet de révolutions pacifiques, ce qui fut le cas de la plupart des pays communistes dans ce qu'on appelait autrefois l'Europe de l'Est, et naturellement des États issus du démembrement de l'Union soviétique. De ce point de vue, seuls les naïfs peuvent s'étonner du rôle que les anciens communistes jouent encore dans des pays devenus membres de l'Union européenne, comme la Bulgarie ou la Roumanie, ou naturellement la Russie et même l'Ukraine, soyons pas naïfs non plus là-dessus, sans parler des républiques d'Asie centrale. La deuxième et la troisième loi conduisent à rappeler que l'on a toujours tendance à surestimer les changements à court terme et donc l'incidence d'événements d'autant plus considérés sur le moment comme des ruptures que l'on en a été surpris, alors qu'avec un peu de recul, ils ne sont que des fluctuations. En ce sens, beaucoup de signes noirs sont peut-être plus gris qu'on ne le pense. À l'inverse, on a non moins tendance à sous-estimer les changements à long terme, alors même qu'ils s'effectuent en douceur et sans rupture apparente. Ces biais s'expliquent sans doute par des épisodes de stress ou d'affolement qui, dans un cas, accompagnent la mise en lumière de situations non viables ou, dans un autre, par la dédramatisation des adaptations bien engagées. En commençant ce développement sur l'analyse et la prévision dans le domaine des politiques, j'ai souligné l'importance de la notion d'échelle. Partant d'un point de vue macroscopique, nous avons subrepticement glissé de la vision télescopique vers la vision microscopique. Quand on dit que tout empire périra, ou d'ailleurs quand on énonce d'autres vérités basiques, comme la tendance pour les populations des pays pauvres à émigrer vers les pays voisins plus riches, Point n'est besoin typiquement d'invoquer le rôle de personnalité individuelle. Mais quand il s'agit de dater, les détails comptent. On en revient toujours à l'histoire du nez de Cléopâtre. Ainsi, les circonstances particulières de la chute de l'Union soviétique mettent en scène des personnages en chair et en os, mais aussi en esprit, comme Gorbatchev ou Yeltsin, et bien d'autres moins célèbres. L'analyse sur le vif des circonstances susceptibles de provoquer à court terme de vraies ou fausses bifurcations, et les prévisions qui en découlent, supposent un degré de finesse beaucoup plus élevé que les syllogismes du plan macroscopique. Or, le niveau d'analyse n'est jamais suffisamment petit. Il faut toujours aller voir de plus près, et chaque niveau a son potentiel de signe noir, comme la tentative avortée de coup d'État contre Gorbatchev en août 1991. Nous sommes là très proches de l'idée de non-linéarité. Mais plus on travaille à l'échelle microscopique, moins les renseignements nécessaires à l'analyse concrète sont aisément disponibles. Dans l'Égypte immédiatement post-Moubarak, par exemple, il était facile de pronostiquer d'emblée que le nouvel équilibre dépendrait principalement du rapport entre l'armée et les frères musulmans, les manifestants initiaux de la place Tahrir ne jouant qu'un rôle transitoire. Un observateur non biaisé par l'idéologie, par conséquent dont l'esprit n'était pas encombré par un modèle erroné, ne prenait pas grand risque en prévoyant que l'armée avait davantage de chances de sortir gagnante. Mais, interprété en temps réel, en août 2012, l'annonce par le président Morsi de la mise à l'écart du vieux maréchal Tantawi et de quelques autres hauts gradés au profit d'un certain général El-Sisi, plutôt bien vu des islamistes, n'avait rien d'évident, même pour un esprit très fin, mais extérieur à la sphère d'El-Sisi. Avec les échecs du régime dans les mois qui ont suivi, la prévision est devenue plus aisée. On en arrive ainsi à une conclusion essentielle. Dans le domaine du politique, res publica, chose publique, les prévisions macroscopiques sont relativement faciles mais peu opératoires en raison de la difficulté, voire l'impossibilité, de leur donner une forme précise et surtout de les dater. Les prévisions microscopiques, susceptibles d'avoir un caractère opératoire, sont difficiles car elles requièrent à la fois de l'information non triviale et un haut degré de finesse. Et il faut répéter que l'information n'a de sens que par rapport à un modèle implicite ou explicite. On remarquera que du point de vue des principes fondamentaux, l'activité d'analyse et de prévision dans les sciences morales et politiques s'apparente au travail scientifique. Je pense par exemple à l'économie où, comme je l'ai déjà dit, la tendance n'est plus, comme chez le Keynes, de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, ou chez les théoriciens de l'équilibre et de l'optimum, à la recherche d'une grande théorie unificatrice, mais à la constitution et l'utilisation de petits modèles où l'intuition et le jugement, donc la finesse, jouent le rôle prépondérant. Beaucoup d'erreurs de prévision sont la conséquence de cadres analytiques ou de modèles mal conçus et insuffisamment imaginatifs, décalés par rapport à l'évolution de l'environnement, j'appelle ça le syndrome de la ligne Maginot, et insuffisamment documentés. Et dans tout modèle bien conçu, explicitement ou implicitement, il devrait y avoir place, il y a place pour des signes noirs. À cet égard, il est vraisemblable que l'évolution des technologies de l'information fera émerger des méthodes nouvelles susceptibles, dans certains cas, de suppléer l'intuition. La capacité technique de traiter rapidement d'immenses quantités de données, les fameux big data, ouvre d'ores et déjà la possibilité d'identifier à l'avance des événements possibles, sinon probables, par exemple une manifestation entre guillemets spontanée contre telle ou telle cible dans des circonstances publiques auxquelles personne d'ailleurs n'aurait eu de raison de songer, événements qui n'auraient aucune place dans un banal modèle probabiliste. Ce qui est en cause en effet, c'est la conception du modèle, et non pas, comme le prétend l'auteur du signe noir, Taleb, la loi de Gauss en tant que telle. Or, l'imagination des gens normaux et leur capacité de remettre en question leurs schémas mentaux sont d'autant plus bornés qu'ils doivent résister en permanence contre le bruit de fond des informations erratiques, plus ou moins intentionnées, qui circulent notamment à travers les médias, y compris sociaux, en particulier les rumeurs, dont les effets peuvent être dévastateurs. On peut penser par exemple au stress des marchés financiers dans certains épisodes de la saga de la crise de l'euro, ou plus exactement de la crise de la gouvernance de l'euro. Aucune prévision sérieuse ne peut résulter de pareille soupe, sauf peut-être pour les rares esprits suffisamment fins pour filtrer instinctivement ce qui va corroborer ou au contraire infirmer un modèle pertinent et non moins intuitif. Insistons aussi sur le fait que dans tous les cas où elles sont conçues pour être utiles, l'analyse et la prévision sont organisées comme des outils praxéologiques, donc en vue de la prescription, ceci dans le cadre d'objectifs tactiques ou stratégiques. En remontant la chaîne, on voit qu'il faut partir de ces objectifs, ceux d'un État ou plutôt de telle ou telle partie d'un État, d'une entreprise, d'un think tank ou plus généralement d'une unité active, pour cadrer toute activité d'analyse et de prévision, à qui s'adresse-t-on, à quelle fin, etc. Je reviens pour terminer sur le concept le plus large du politique, de choses publiques, qui concerne au sens large toutes les unités actives. Ici encore, l'échelle d'observation importe. La plupart des unités actives peuvent s'analyser comme des systèmes de sous-unités actives et ainsi de suite, un peu comme en physique, un atome se résout en électrons et nucléons, protons et neutrons, lesquels se composent de quarks, toutes ces particules interagissant grâce à la médiation d'autres particules appelées bosons. À un premier niveau, l'analyse peut, et à vrai dire, doit s'effectuer avec l'esprit de géométrie. Ainsi, dans tout État, peut-on distinguer le système des trois branches du gouvernement, exécutif, législatif et judiciaire, chacune de ces branches constituant un sous-système d'unité active, et ainsi de suite. La science politique se fixe parmi ces tâches d'identifier, de décrire et d'analyser ces enchevêtrements de systèmes pour les unités politiques et d'élaborer des concepts et des modèles platoniciens pour tenter d'en saisir la structure, c'est-à-dire l'essence ou les invariants. La science du management procède de même pour le monde des entreprises, la criminologie pour celui des unités actives criminelles, et ainsi de suite. Ainsi parvient-on à construire intellectuellement une géométrie du politique dont l'utilité pratique est trop évidente pour qu'il soit nécessaire de s'y attarder. Mais, à s'en tenir à ce type d'analyse, on s'interdirait d'expliquer ou même de voir comment le cardinal de Richelieu a survécu à la journée des dupes le 11 novembre 1630, ce qui a eu une importance déterminante sur le cours de l'histoire de France, comment Robespierre est tombé, et au contraire le coup d'État du 18 Brumaire a réussi, et tant d'autres grandes ou petites histoires décisives des États, mais aussi du monde des entreprises ou de la pègre, qui furent ou sont autant de signes noirs ou de bifurcations dans la chaîne des événements. Si d'ailleurs, après la mode du marxisme ou l'époque de l'école des annales en France, on a retrouvé le goût de la biographie, c'est peut-être en raison du besoin de comprendre les singularités et pourquoi l'histoire n'est pas déterministe, l'histoire au sens large, alors que l'illusion du déterminisme rétrospectif est l'un des biais les plus naturels de l'esprit. Ce qui est arrivé devait arriver. À la limite, certains phénomènes microscopiques, même les plus marquants de l'histoire, ou plus généralement de toute histoire, avec un petit h, ne pourraient avoir été anticipés qu'en ayant été capable de modéliser par un labeur guidé par l'intuition le fonctionnement cérébral de telle ou telle personne physique, ou plus difficile encore, l'interaction entre quelques cerveaux exceptionnels. Pareil fonctionnement ou pareille interaction sont éminemment inscrits dans une durée bergsonienne concrète, certes parfois très courte, et ne se laissent donc pas saisir à travers des représentations cinématographiques, toujours pour parler comme Bergson. Celles-ci travestissent la notion de durée, dont elles effacent l'essentiel, c'est-à-dire la création. Tout juste peut-on tenter de reconstituer ces événements uniques a posteriori, comme peuvent le faire des historiens ou parfois des romanciers pourvus d'une intuition hors norme. Je m'appuierai à cet égard sur Stefan Zweig, qui fut toujours fasciné par les performances extrêmes des forces de l'esprit. Ce n'est pas sans raison que cet auteur, frappé par des remarques de Balzac, avait choisi d'écrire une biographie de Joseph Fouché, présentée, ouvrez les guillemets, comme utile et très actuelle. L'ouvrage date de 1929. Contribution, donc utile et très actuelle contribution à la psychologie de l'homme politique. Fin de citation. Ou encore, citation, comme une contribution à une étude biologique, encore inexistante et pourtant très nécessaire, du diplomate de cette race d'esprit qui n'a pas encore été complètement examinée et qui est la plus redoutable de notre univers. Fin de citation. Zweig va même jusqu'à écrire de ce grand criminel, je me réfère bien sûr à Chateaubriand décrivant Talleyrand appuyé sur le bras de Fouché, le vice appuyé sur le crime, qu'il fut, citation de Zweig, le plus remarquable de tous les hommes politiques. Fin de citation. Voilà le grand mot lâché, homme politique. Quand on regarde la politique avec un grossissement de plus en plus fort, comme on parle du grossissement d'une loupe ou d'un microscope, on constate que l'approche géométrique échoue à représenter les phénomènes humains, pour ce qui nous concerne ici, à la racine des bifurcations et autres signes noirs. Voir par exemple le cas des attentats du 11 septembre 2001. Il faut affronter ce fait et compléter la définition générale du politique au masculin comme domaine de la chose publique par une autre, d'un autre ordre, et qui vise à capter l'essence de l'homo politicus, la politique au féminin, et, à travers la réalité vécue dans la durée bergsonienne de la chose publique, tout ce qui n'est pas d'ordre géométrique. Cela vaut au niveau d'un État, ou de toute subdivision d'un État, d'une entreprise, etc. Pour toute unité active, les circonstances permettent à certaines personnes physiques d'exercer une influence ou un pouvoir critique à certains moments, au-delà de toute réalité juridique ou fonctionnelle. On trouve dans cette catégorie les personnages les plus remarquables de l'histoire, mais aussi du monde de l'entreprise ou de la finance, de la religion, de la criminalité, car ce dont nous parlons ne relève pas du bien et du mal, ou du mal. Tous ces personnages ont en commun une capacité unique de voir et d'anticiper des situations complexes, c'est-à-dire échappant à l'esprit de géométrie. Ils ont la capacité de changer le monde, entre guillemets. Balzac écrivait à propos de Fouché, je cite, « Cet homme au visage pâle, au pâle visage, élevé dans les dissimulations monastiques, avait lentement et silencieusement étudié les hommes, les choses, les intérêts de la scène publique. » Fin de citation. Il nous est présenté comme un animal au sang froid, pourvu en toutes circonstances d'un masque impénétrable, dépourvu de tout sens de culpabilité, d'une amoralité absolue, doté d'une intuition extraordinaire des situations et de leur devenir, et qui en conséquence ménage ses positions pour toujours finir par tomber du bon côté, c'est-à-dire de la majorité, quelle qu'elle soit. Au niveau de grossissement le plus fort qui nous soit accessible au sein d'une unité active particulière, on peut reconnaître que de rares hommes ou femmes politiques qui sont avec les autres dans des situations profondément asymétriques, dont l'art est tout en finesse et dont la compréhension par les géomètres peut être difficile, sinon impossible, en temps réel. Balzac célébrait en Fouché, je cite encore, écoutez bien, l'un de ces personnages qui ont tant de faces et tant de profondeur sous chaque face qu'ils sont impénétrables au moment où ils jouent, et qu'ils ne peuvent être expliqués que longtemps après la partie. Fin de citation. En ce sens, les grands hommes politiques, bénéfiques ou maléfiques, sont comme les grands artistes ou les grands découvreurs, ils sont uniques et donc imprévisibles, sauf peut-être pour des observateurs dont la finesse confinerait à la voyance en leur donnant accès à des niveaux de réalité au-delà de ce que nous appelons ordinairement le réel. Il n'y a pas que le nez de Cléopâtre qui puisse changer la face du monde. Voilà pourquoi on doit toujours se préparer psychologiquement et donc pratiquement à l'émergence possible de signes noirs, mais aussi des signes blancs. Et il faut se garder de toute attente de l'esprit. Et s'il faut se garder de toute attente de l'esprit de finesse, il est encore moins sage de s'en remettre exclusivement à l'esprit de géométrie, ce qui n'empêche nullement d'admirer ses œuvres, jusque et y compris dans les sciences morales et politiques. Je vous remercie.
Question extrêmement difficile, prévision, possibilité, la probabilité dans les sciences humaines. Merci donc infiniment. Je vais donner la parole d'abord à Madame la vice-présidente.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Thierry. C'était vraiment très intéressant. J'ai juste trois petites questions. À propos des prévisions incroyables, si je prends Tocqueville, la prévision, ce qu'on peut appeler la démocratie totalitaire, enfin, c'est pas lui qui l'appelle comme ça, bien sûr, et tout le monde voit de quel passage je parle, ou encore le tout petit chapitre sur le panthéisme dans la démocratie. Ce sont des prévisions, je ne sais pas comment on peut appeler ça incroyable, et on trouve ça dans ce même siècle, on pourrait trouver ça chez Nietzsche très facilement, un certain nombre de choses, même chez Hippolyte Taine aussi, et puis bien évidemment chez Burckhardt. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est seulement Est-ce que c'est l'esprit de finesse dont vous avez dit qu'il peut confiner à la voyance ? L'intuition. Et est-ce qu'on peut pas aussi parler parfois d'un facteur hasard? Parce que quand vous parlez de la chute de l'Union soviétique, il y a tellement de gens qui ont parlé de la chute de l'Union soviétique, il y en a forcément deux ou trois qui ont dit c'est pour bientôt. Et puis beaucoup d'autres qui ont dit c'est pour dans quatre siècles. Donc il y a ça aussi. Je veux dire qu'on ne se souvient que de ceux qui ont eu raison. Alors c'est intéressant aussi ça. Bon. Une autre petite question. Plutarque disait quand les prophéties se sont tues, c'est qu'il n'y a plus d'avenir, quand les oracles se taisent. Est-ce que vous avez l'impression que la passion pour la prévision traduit un sentiment d'espérance, ou bien est-ce qu'il y a un lien entre les deux pour vous? Et puis troisième chose, il y avait un livre très amusant de Raymond Ruyère, qui par ailleurs n'était pas un auteur amusant, mais ce livre-là, Les 100 prochains siècles, où il disait tout au début, bien sûr on ne peut rien savoir de ce qui se passera dans les 50 ans prochains, mais dans les 100 prochains siècles, si, il y a des choses dont on est absolument sûr, comme par exemple, nous sommes sûrs que dans 100 siècles, la population mondiale ne sera plus ni noire dit blanche, elle sera entièrement café au lait, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que ce sont des boutades, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses comme ça que l'on peut prévoir à très long terme?
Bien. Merci. Monsieur Pébreau.
Merci, Monsieur le Président. Merci à Thierry de cet exposé vraiment passionnant et assez extraordinaire dans ses rapprochements. Je voulais l'interroger sur la partie économique pour lui demander si la différence qui peut exister entre la microéconomie et la macroéconomie ne tient pas pour partie précisément à une différence de pondération entre esprit de géométrie et esprit de finesse. C'était la première partie de ma question, la macroéconomie ayant la caractéristique, en effet, de chercher à prévoir des évolutions collectives dont, par construction, les tendances sont assez directement induites par des comportements collectifs et non par des comportements individuels, lesquels sont beaucoup plus possiblement irrationnels. Et puis ma deuxième question était relative à la question de l'endettement et des signes noirs. Ma question est la suivante. Les signes noirs sont généralement la conséquence d'événements qui se produisent dans des conditions dans lesquelles ils ont été imprévisibles, parce que la prévision s'était fondée sur une analyse de la situation qui laissait de côté un problème. Et un problème dont les conséquences se sont révélées majeures du fait de l'amplification de ce problème au fur et à mesure que le temps passe. C'est le cas en particulier de l'endettement qui a cette caractéristique. Et ces caractéristiques me semblent très liées à une vision macroéconomique des problèmes par rapport à une vision microéconomique des problèmes, c'est-à-dire que c'est parce qu'on ignore des évolutions qui sont considérées comme naturelles et non problématiques que le signe noir émerge. Alors, je vais prendre pour cela l'exemple de l'endettement. L'endettement est la conséquence le plus souvent d'un pari sur l'avenir excessivement optimiste qui est obligatoirement encouragé par un encadrement normatif qui permet ce surendettement. Par exemple, l'encadrement normatif qui permet l'excès de production de dollars conduit à un endettement important des pays en développement au début des années 80, ou de la même façon conduit à un endettement très excessif de l'ensemble de l'économie américaine et de l'économie mondiale au début des années 2000. Les crises qui s'en suivent sont des conséquences donc de politiques macroéconomiques qui visaient à contrôler un certain nombre de variables macroéconomiques sans prendre en compte les implications que ce contrôle, tel qu'il était exercé, pouvait avoir sur les évolutions par ailleurs. Voilà, donc ma question est sur ce terrain. Les signes noirs ne sont-ils pas les conséquences directes de systèmes d'analyse et de prévision macroéconomiques qui conduisent les gouvernements à prendre des décisions qui font abstraction des déséquilibres qu'ils provoquent? Merci.
Merci. Monsieur Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Je suis très émerveillé et très heureux de l'exposé de Thierry. Et si nous étions dans une assemblée parlementaire d'autrefois, je voterais l'affichage, comme on dit. Mais je le remercie d'avoir mis au centre l'opposition de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse, qui devrait être le premier texte qu'on fasse lire à un jeune garçon de 17 ou de 18 ans, parce que c'est peut-être le texte le plus profond de toute la littérature, enfin de toute de les moralistes français, qui sont de très grands philosophes supérieurs aux occupants germaniques. Ce qui est en profondeur dans ce texte, c'est évidemment que plus le nombre de variables existe, plus l'analyse est complexe, et ça fait la différence essentielle entre l'économie et la politique. La prévision économique est relativement facile comparée à la prévision politique. Dès qu'on quitte l'économie, la prévision devient risquée. Le plus grand exemple de sottise prévisionnelle, c'est le document de la SDN de 1939 sur les prévisions démographiques en Europe, où les plus grands démographes du monde se sont trompés à 100%. Si vous regardez ce volume, il existe, un volume de la SDN. Ils ont fait une prévision à 50 ans des populations dans le monde et en Europe, et le résultat a été totalement démenti par les faits. Autrement dit, une science relativement nouvelle, de grands esprits, de qualité, etc., ont une capacité d'erreur prodigieuse. C'est beaucoup plus réduit en économie, mais je crois, et c'est la question que je voudrais soumettre à Thierry, je crois que c'est parce que l'économie est de nature différente par rapport à la politique. Du côté de l'économie, on a l'unité, le partiel et l'instrumental. C'est-à-dire qu'au fond, les agents économiques ont nécessairement un seul objectif. Et les hommes politiques ont des multiples objectifs. Il y a une pluralité infinie de pensées chez un homme politique, chez un agent politique, aussi bien chez un électeur, qui est très difficile à interpréter. Il est très difficile d'interpréter l'électeur que chez le dirigeant politique. Tandis que l'agent économique, celui qui veut un revenu plus élevé, celui qui veut vendre davantage, celui qui veut vendre ou qui veut investir, etc., il y a l'unité. D'autre part, il y a la particularité, il s'agit nécessairement d'augmenter l'efficacité, il y a un seul. Et ensuite, c'est instrumental. C'est-à-dire que le raisonnement économique ne raisonne absolument pas sur les fins, il raisonne uniquement sur les moyens. Comment fait-on pour produire plus avec la même quantité ou pour réduire la quantité qu'on utilise pour avoir tel produit? Donc, l'économie, c'est relativement facile, et le grave danger des sciences sociales, particulièrement de la science politique aujourd'hui, c'est de vouloir imiter l'économie. Il y a un grand historien américain qui, en 90, a dit, bon, aucun département de science politique n'a prévu l'effondrement de l'Union soviétique. C'est le phénomène le plus important du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, donc il faut fermer tous les départements de sciences politiques des universités et donner l'argent au département d'histoire. C'est assez justement vu. Mais pourquoi on n'a pas prévu l'effondrement de l'Union soviétique? Parce que l'effondrement de l'Union soviétique, rétrospectivement, c'est très facile. Gorbatchev veut à la fois la réforme et la liberté d'expression. Et à l'arrière-plan, il ne veut plus utiliser la force. À partir du moment où vous avez ces trois éléments, l'effondrement de l'Union soviétique est donné. D'une certaine façon, il est exact de dire que les gens l'attendaient. Kennan, en 47, a dit qu'il faut attendre Thermidor. Il faut contenir l'Union soviétique et Thermidor se produira. Aron, dans un livre de 1948 ou 49, dit la même chose. C'est-à-dire beaucoup de gens disaient des sottises. Je connais un grand Français qui a expliqué qu'il faudrait faire un mur entre l'Europe occidentale et l'Union soviétique pour empêcher que les ouvriers français ne fuient améliorer leurs revenus en Union soviétique. Il s'agissait d'Alfred Sauvy, et si je peux citer un inspecteur des finances, Lauré a dit à peu près exactement le même genre de bêtises. C'est-à-dire que malgré tout, ceux qui disaient qu'il faut attendre Thermidor étaient en minorité, mais quand même, ils annonçaient la fin de l'Union soviétique. Ceci dit, personne n'a prévu le mouvement, parce que le mouvement, c'est absolument un événement avec une pluralité de facteurs qui entrent en jeu, qui est en dernière analyse, quand on voit la chute de Berlin, la renonciation au rideau de fer à Berlin, on voit bien que ce qui a été décisif, c'est la renonciation à utiliser la force. Et qu'à partir du moment où un pouvoir autocratique n'utilise plus la force, il cesse d'être autocratique. Mais là, la prévision est littéralement impossible et seul l'esprit de finesse joue. Et donc la question que je voudrais poser à Thierry, c'est, est-ce qu'il ne faut pas déclassifier les sciences sociales ou les sciences humaines. Mettre en haut, avec l'esprit de finesse, la politique, et en bas, l'économie, la démographie, la sociologie, toutes les petites sociologies, etc., qui sont malgré tout, par rapport à la réflexion politique, des disciplines subalternes.
Merci. Madame Delmas-Marty.
Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais venir dans un domaine que Thierry de Montbrial connaît bien, les relations internationales, et lui demander à propos de l'affaire de la Libye. Au fond, à partir de quel moment et selon quels critères la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale devenait prévisible? Parce que j'ai le sentiment que 6 mois avant, c'était totalement imprévisible. Donc qu'est-ce qui a rendu cette décision, peut-être au dernier moment, prévisible? Et alors, deuxième question, si on rapproche la situation de la Libye et celle de la Syrie, est-ce qu'on peut avancer un peu dans la recherche des critères de prévisibilité? Il y a sans doute plus de données, plus de complexité encore dans le cas de la Syrie. Mais est-ce qu'on peut, à partir de là, approcher la question des critères? Voilà.
Merci. Monsieur de la Rosière.
Oui, merci. J'ai beaucoup admiré cet exposé qui est très, très vaste et qui nous a élevé l'esprit. Je voulais dire que je me différencie un tout petit peu d'une appréciation qui a été portée par Thierry de Montbrial sur le point suivant. Il dit les phénomènes macroéconomiques sont relativement faciles à prévoir, mais c'est leur datation en temps réel qui est difficile. Alors, je me sépare un tout petit peu de lui sur ces points-là. Sur l'endettement de la dette publique, il est facile de comprendre que le mouvement de croissance de la dette publique par l'accumulation de déficits allait entraîner des phénomènes d'excès de la dette publique par rapport à la capacité de repaiement et par rapport au PIB. J'ai moi-même participé à des études quand j'étais au Fonds monétaire à la fin des années 70, au tout début des années 80, où le mouvement général de l'accroissement de l'endettement des pays développés s'amorçait, et j'avais participé à des études qui donnait des chiffres très précis. Par exemple, le fait que la France soit tout près de 100% du PIB en dette publique avait été annoncé il y a une trentaine d'années. Et à toute chose étant égale par ailleurs, si les mouvements continuaient. Donc, je pense que le phénomène était assez facile à prévoir. C'est assez simple, hein, comme hypothèse à faire. Il faut faire des hypothèses de croissance et des hypothèses de taux d'intérêt. Je pourrais également dire que la croissance à 25, 30, 50 ans des grandes puissances émergentes au point de vue économique est également pas très facile, mais est faisable et aboutit à des déclassements et des reclassements de grandes puissances internationales qui sont maintenant pratiquement certains. Et ce qui me frappe, comme cela d'ailleurs vous a frappé, et vous l'avez très bien dit, ce qui me frappe, c'est que ces phénomènes qui sont assez faciles à prévoir, Jean-Claude le disait il y a un instant, n'ont pas conduit les hommes politiques à un minimum de prise en compte des conséquences de ces prévisions. Et ça, c'est un peu un mystère. Le fait que, depuis, disons, 1975, 1980, un pays comme la France n'ait pas trouvé l'occasion d'expliquer démocratiquement à son électorat que si on continuait à cause de la facilité des marchés financiers, le fait que c'était facile de s'endetter, qu'on allait vers des impossibilités de dette publique, reste pour moi un peu un mystère, et c'est la question que je voulais vous poser. Merci.
Monsieur Ménard.
Merci, Monsieur le Président. J'ai moi aussi beaucoup admiré cette communication, et pas seulement à cause de ses références pascaliennes. Cela dit, ces références même pourraient être encore explicitées davantage. Et elles sont plus présentes encore que peut-être que vous ne le soupçonniez.
Je compte sur vous.
Et notamment, la différence entre la géométrie et la finesse est plus subtile que celle-là. Au fond, c'est un peu la même chose, la géométrie et la finesse. C'est toujours des principes qui trouvent des conséquences. Voyez. Mais dans l'esprit de géométrie, les principes sont faciles à voir, ils sont grossiers, et par conséquent, les conséquences sont faciles à tirer, on ne peut pas beaucoup se tromper. Voyez. Tandis que dans la finesse, les principes sont extrêmement infinitésimaux. Et on est obligé d'en avoir un très grand nombre à la fois. Pour procéder, et l'on peut procéder alors à la fois linéairement, comme vous l'avez suggéré, mais aussi globalement, en faisant des ensembles globaux de réalités que l'on considère en même temps, à la fois. Et tout cela suppose. Alors ce n'est pas vraiment l'intuition qui fonctionne à ce moment-là. Et je reprendrai ici ce que vous avez dit à propos de Raymond Boudon, une citation de Raymond Boudon, qui est l'intuition est de la rationalité condensée. C'est la réalité condensée, c'est exactement l'esprit de finesse. C'est exactement la même chose que l'esprit de finesse. C'est la rationalité condensée. Et l'intuition, elle est au départ à la fois de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse. Elle est non seulement au départ, mais quelquefois, elle est intermédiaire. Elle donne des résultats provisoires. Je crois que j'ai suffisamment dit, mais on pourrait encore continuer. Merci.
Merci, M. Ménard. M. Trichet.
Merci, M. Le Président, je me joindrai à tous ceux de nos collègues qui ont trouvé, à proprement parler, vraiment admirable l'exposé de Thierry Montbrial. J'ai trois questions, remarques. Premièrement, est-ce que dans son esprit, l'incertitude au sens de Knight existe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des événements qui sont totalement non probabilisables, non analysables d'une certaine manière, soit par l'esprit de géométrie, soit par l'esprit de finesse? Et donc, ils sont hors du champ des probabilités et d'une analyse probabiliste, même théoriquement, si je puis dire. Deuxième observation, est-ce que le concept banal de « unknown, unknown » a un sens pour lui, pour Thierry? Troisièmement, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, une réhabilitation possible, si je puis dire, de l'esprit de géométrie, lorsqu'on est en présence d'événements ou de systèmes qui apparaissent comme étant extraordinairement complexes et donc qui devraient normalement donner la primauté à l'esprit de finesse, parce que leur complexité même déjoue la géométrie, mais qui en même temps sont des systèmes qui sont en train de se transformer profondément. Je pense par exemple aux marchés financiers ou à l'ensemble de nos sociétés, d'ailleurs aussi bien économiques que sociales et politiques, sous l'impact des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Est-ce qu'il n'y a pas là alors des propriétés émergentes, indécelables par l'expérience, l'observation antérieure? Alors que de nombreux exemples qui nous ont été donnés, et naturellement celui de Fouché, se fondaient sur des observations antérieures, une accumulation, disons, de profondeur dans diverses dimensions, mais qui était fondée sur des concepts, sur une histoire, sur des sociétés humaines qui existaient déjà. Dans le domaine de la transformation actuelle de nos sociétés, il est clair qu'il y a, en tout cas c'est mon intuition, des propriétés émergentes qu'on a vues à l'œuvre d'ailleurs dans la la crise financière récente et peut-être dans d'autres crises alors purement politiques, est-ce que l'esprit de géométrie alors ne devrait pas reconquérir une partie du terrain en s'interrogeant sur précisément, comme tu l'as dit, la non-linéarité, les effets de catastrophe au sens à la fois banal du terme et aussi peut-être au sens mathématique du terme? Est-ce qu'il n'y a pas là tout un champ disons, l'université, pour l'académie, qui ressort quand même dans une assez large mesure, sorti dans une large mesure de l'esprit de géométrie. Et enfin, oui, non, j'avais des tas de questions pour avoir ton sentiment sur la crise financière de 2008, la résilience de la zone euro. Est-ce que tu peux appliquer, disons, tes analyses fascinantes aux événements les plus récents, y compris sur le plan économique et financier?
Merci.
Votre communication m'a impressionnée par sa grande finesse et sa géométrie parfaite. Donc ma question sera très courte. Dans cette polémique, prévoir c'est gouverner, ou dit-on gouverner c'est prévoir, quelle est votre option en miroir au regard de l'époque actuelle? Et finalement, ne croyez-vous pas que ce qui est certain, c'est l'imprévisible, d'où la naissance, l'éclosion de l'exonomique? Merci.
Merci, madame. Eh bien, monsieur le Président, vous avez de quoi répondre.
Bon, vous me donnez combien de temps, d'ailleurs, parce que...
Dans 25 minutes, il sera 17h.
Bon, bon, écoutez, là, nous sommes plutôt dans l'ordre de la mécanique céleste, où les prévisions sont... certaines. D'abord, je vous remercie. Bon, il y a énormément de questions. Je vais essayer d'y répondre de mon mieux, en commençant par Chantal Delsol. Alors, d'abord, il est tout à fait clair à mes yeux, je me suis passionné toute ma vie pour l'histoire des sciences, il est tout à fait clair que toutes les grandes découvertes, par exemple des mathématiciens, toute une partie de moi-même qui est du côté des mathématiques, toutes les grandes découvertes sont de l'ordre de la finesse. Bon, je vais vous donner deux exemples, si vous le permettez, deux exemples frappants. L'un que je tiens de mon maître, l'un de mes maîtres en mathématiques, qui était mon professeur et ensuite mon collègue à l'École polytechnique, Laurent Schwartz, et qui m'a raconté, qui a eu la médaille Field, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel, des mathématiques, pour une grande découverte, ça s'appelle la théorie des distributions, et il m'a raconté longuement, et il le raconte brièvement dans ses mémoires, comment l'idée centrale lui est venue au cours d'une nuit, par un flash. Bon, alors ensuite, il y a eu un très dur labeur de vérification, je l'ai dit dans ma communication. Donc, même en mathématiques, toutes les grandes idées viennent, et naturellement, on peut dire la même chose en physique, etc. Donc, ensuite, il y a un très long labeur de vérification. Voilà. Et personnellement, alors je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée de rationalité compressée là-dessus. C'est un vrai sujet de débat, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas un seul instant. Et je vais vous donner, et les relations psychologiques sont même plus étonnantes. Je vais même prendre deux minutes supplémentaires pour vous raconter une autre histoire que je tiens du même Laurent Schwartz. En mathématiques, on appelle conjecture une proposition que l'on croit vraie, mais que l'on ne sait pas démontrer, la plus célèbre étant le théorème de Fermat qui a fini par être démontré. Enfin, il y en a d'autres qui sont très célèbres. Et alors, en général, aujourd'hui, le nombre de gens qui travaillent sur une conjecture donnée sont très peu nombreux. Vous avez peut-être 15 ou 20 mathématiciens qui sont en concurrence sur une question à un moment donné. Alors, on va parler de la... par exemple, on va appeler la conjecture de Dupont. Imaginons une conjecture de Dupont. Alors, l'histoire réelle se passe dans un train de mathématiciens à l'époque soviétique qui se rendent en train de Moscou à Novosibirsk, qui était à l'époque la capitale scientifique. Et donc, de quoi des mathématiciens peuvent-ils parler quand ils sont dans un train se rendant à Novosibirsk? Ils parlent de mathématiques. Bon, imaginez un compartiment où ils sont 6... Et puis, il y a quelqu'un qui dit, aux autres qui ne connaissaient pas, il dit, tiens, vous savez, la conjecture de Dupont vient d'être démontrée par Durand. Et en face de lui, il voit une tête qui se décompose. Et celui qui est devant est l'un des 20 qui a passé sa vie à travailler sur le sujet. et qui donc voit ses espoirs d'être couronné, ruiné, etc. La nuit suivante, le Durand, qui était donc dans le train, est tellement bouleversé qu'il trouve une solution. La fin de l'histoire, c'est que la nouvelle initiale était fausse. C'est donc qu'il y a eu un choc psychologique qui s'est produit par l'annonce, une annonce fausse qui était que la conjecture en question avait été démontrée. Ce que je veux dire en prenant ces exemples, c'est que je pense que la découverte n'est jamais du ressort de la pure géométrie, au sens, si on prend ces deux catégories, géométrie et finesse. Et cela vaut, Chantal, pour Tocqueville. Bon, je pense que Tocqueville, une des raisons pour lesquelles je fais partie, comme la plupart d'entre nous ici, de grands admirateurs de Tocqueville, c'est que Tocqueville avait les deux. Et alors, justement, le genre de prévision, par exemple, je crois que c'est à la fin aussi du premier tome de La démocratie en Amérique, hein, il prévoit, il y a une page, il y a deux pages qui sont assez extraordinaires, dans lesquelles on voit émerger le monde bipolaire. Et ça, simplement, nous sommes en 1830, si je me trompe, alors que l'émergence du monde bipolaire, ce sera plus d'un siècle plus tard. Et donc là, mon leitmotiv, c'est le problème, c'est la datation. C'est la datation, c'est ça la véritable difficulté. Mais il n'empêche qu'il avait des modèles sous-jacents assez extraordinaires, comme ceux que tu as cités également. Mais il y a énormément de propositions de Tocqueville qui s'apparentent à des lois, et j'en ai cité moi-même quelques-unes dans mon exposé. Mais il avait aussi l'esprit de finesse. Et de ce point de vue-là, il avait l'esprit de finesse deux fois, si j'ose dire. Il avait l'esprit de finesse dans la formulation de sa géométrie, si je puis dire, la formulation des lois, mais il l'avait aussi dans le sens très concret de la datation. Et de ce point de vue-là, l'un des livres les plus extraordinaires, à mon sens, de Tocqueville, ça reste les fameux souvenirs. Parce que les souvenirs de 1848, ces souvenirs ne sont pas conçus comme un grand ouvrage comme La démocratie en Amérique ou L'ancien régime et la révolution, mais ce sont des observations qu'il fait à la limite dans la rue, et dans lesquelles il pressent justement la montée des événements avec une lucidité extraordinaire. Et là, nous sommes dans la datation. Donc, je pense que Tocqueville, ne serait-ce que pour cela, Tocqueville avait véritablement la gamme des talents. Alors, sur le plan, alors, bien sûr, des grands esprits, Nietzsche, etc., on peut trouver des ce que j'appelais des lois de l'histoire non datées. En fait, il y a une double difficulté, j'ai essayé de le dire dans ma communication. Il y a la forme exacte des prévisions, parce que dire qu'un régime va s'écrouler, il y a beaucoup de façons selon lesquelles un régime peut s'écrouler. J'en prends l'exemple de la Corée du Nord. Moi, je m'intéresse beaucoup à la Corée du Nord, évidemment, parce que tout le monde cherche à comprendre comment la Corée du Nord va finir. Bon, alors évidemment, a posteriori, tout le monde expliquera pourquoi il était inévitable que ça se passe de telle ou telle façon. C'est la fameuse illusion du déterminisme rétrospectif. Mais en réalité, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais rien que là-dessus, je pourrais tenir pendant une heure. Il y a plusieurs façons d'envisager la fin du régime nord-coréen. Et ça dépend en partie, pas exclusivement, des principaux pays qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire de 5 ou 6 pays pour l'essentiel, y compris naturellement la Corée du Sud. Donc en fait, il y a deux aspects très importants. C'est la forme particulière que peut prendre un événement annoncé. Ça rejoint, n'est-ce pas, la question de savoir si dans 2 ou 3 siècles tout le monde sera café au lait. Bon, ça peut se produire de différentes manières. Il y a bien des voies possibles. Donc, il faut qualifier davantage l'événement. Sinon, ça reste que trop imprécis. Il y a donc la forme particulière que peut prendre une prévision, et il y a la question de la datation. Et la difficulté fondamentale, c'est dans la datation. Et au fond, on comprend très bien pourquoi. Parce que si je reprends l'exemple de la géologie, qui est assez éclairant, dans les causes fondamentales, pour parler comme Thucydide, n'est-ce pas, les causes les plus fondamentales des tremblements de terre, c'est les plaques tectoniques. Bon. Mais les causes immédiates d'un tremblement de terre sont d'une nature tout à fait différente. Ce sont des phénomènes de relâchement d'énergie qui ne sont pas du tout du même ordre. Donc les causes, et ça, nous le trouvons constamment aussi dans les phénomènes humains. L'explosion d'une bulle financière s'explique par des phénomènes qui ne sont pas de même nature que les causes fondamentales de la formation de cette bulle financière, ce qui est une partie des réponses aussi posées, des questions soulevées aussi bien par Michel Pébro que par Jean-Claude Trichet. Et on ne peut pas intégrer les deux dans un même modèle. ou alors ce modèle serait quasiment impraticable. Donc là, nous avons des difficultés importantes. Alors j'ajouterai également un autre point, qui est que les prévisions, souvent, sont, je le dis d'ailleurs aussi, mais trop rapidement sans doute dans mon exposé, l'exercice de prévision, il n'est jamais totalement gratuit. Si on fait des prévisions, c'est pour en tirer une utilité, quelque chose, un enseignement utile. Si en 1980, par exemple, on cherchait à savoir combien de temps pouvait durer l'Union soviétique, selon que l'on disait, si on disait l'Union soviétique va s'écrouler imminemment, ça pouvait conduire à des conséquences stratégiques et politiques totalement différentes de la réponse qui était la réponse générale, c'est-à-dire ça s'écroulera un jour, mais peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, voire 200 ans ou plus. Donc cette question de la datation est absolument essentielle. Alors, sur la question du sentiment d'espérance, je dirais volontiers oui. Et il y a une prévision en particulier qui est toujours bonne, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'avant-dernier verset du Coran, sous une autre forme, c'est « après la pluie, le beau temps ». Après des désastres, il y a toujours une renaissance. Après les catastrophes, il y a toujours une remontée. Alors, ce que je veux dire par cette boutade, c'est que je pense que la notion d'espérance est profondément d'un autre ordre que celui dont nous parlons avec ces exercices de réflexion sur la prévision, en tout cas pour le type de phénomène auquel j'avais en vue aujourd'hui. Alors, je reviens un instant. Alors, Michel Pébreau, la différence micro-macro, etc. Alors, sur la différence micro-macro, je crois qu'il y a deux aspects. Je pense que les chercheurs, la théorie économique fondamentale, je pense que Jean Tirole ne me démentira pas, cette différence, quelqu'un comme Roger Guenry et bien d'autres ne refusent la distinction micro-macro. Je crois qu'à un certain niveau fondamentale, de réflexion fondamentale sur l'économie, la distinction n'est pas nécessairement pertinente. Elle l'est en revanche dès qu'on cherche à faire de l'économie pratique. Et ce que je constate justement, ce que j'ai observé, c'est que il y a eu une révolution à 180 degrés depuis les années 70, depuis les années où moi-même je faisais ma thèse à Berkeley en économie mathématique. C'est que à l'époque, comme je l'ai dit, on avait beaucoup d'espoir dans les grands modèles, y compris d'ailleurs dans les grands modèles économétriques en France, par exemple, et des gens aussi extraordinaires que Paul Samuelson pensait, comme bien d'autres, qu'on s'approcherait de la précision de la mécanique rationnelle, ce qui est un état d'esprit auquel on a complètement renoncé. Et progressivement, au fil du temps, on a évolué vers des petits modèles. Les modèles, je parle encore en me tournant vers notre confrère, Tirole, lui-même est un très bon exemple, puisqu'il est passé justement de la génération antérieure travailler sur des grands modèles, et lui-même, il a multiplié dans ses travaux sur des petits modèles, et qui cherchent à capter l'essence, et qui cherchent justement à capter cette notion de finesse. J'ai eu aussi, par exemple, en macroéconomique, des conversations avec Olivier Blanchard, qui disait exactement la même chose. C'est pas aujourd'hui, aucun modèle macroéconomique ne peut prétendre être le modèle parfait. Il faut à l'analyste une certaine, j'en reviens toujours à la notion d'intuition, pour sentir, alors, qu'il y a un peu de rationalité compressée, j'en suis sûr, mais je pense qu'il n'y a pas que de la rationalité compressée, pour essayer d'avoir une formalisation qui capte un peu l'essence d'une situation, mais nous sommes dans une situation, encore une fois, qui est profondément différente de celle des sciences exactes. Et je suis parti des sciences exactes pour montrer justement progressivement les différences. Et naturellement, Michel Pébreau a parfaitement raison. Souvent, on avait laissé de côté des variables, un problème, mais souvent, on les laissait de côté, ces variables, ces problèmes, parce qu'ils sont, comme pour les tremblements de terre, de nature différente. Encore une fois, la formation d'une bulle et les circonstances de son explosion sont d'ordre différent. Ils ne peuvent pas, je ne peux pas se laisser capté par une seule, par un même modèle, je pense fondamentalement. Alors, Jean-Claude, donc le pari sur l'avenir, c'est une forme de représentation des prévisions. Et justement, ça capte une partie des prévisions, mais pas cette partie des prévisions, si
tellement fine, justement, qui est justement celle qui va conduire à l'explosion d'une bulle. Ça veut dire, d'ailleurs, en termes très pratiques, qu'il faut toujours être sur ses gardes. C'est ça que ça veut dire. Alors, Jean-Claude Casanova, je pense que, en effet, l'économie est de nature profondément différente du politique. Je pense que là, on ne peut pas faire, par exemple, de mathématisation très, très poussée en politique. On peut se servir de théorie des jeux pour s'inspirer de certaines situations géométriques. J'ai fait d'ailleurs allusion, mais je crois que l'économie aussi a une grande partie qui reste profondément de l'ordre de l'imprévisible, et j'insiste toujours sur le fait que l'économie n'est pas, et à mon avis ne sera jamais, une science comparable à celle de la nature ou les sciences exactes. Et je vais rappeler au passage, c'est un petit les conditions dans lesquelles le prix Nobel d'économie a été créé, dont je me souviens moi-même très précisément. D'ailleurs, Jean-Claude, on avait nous-mêmes travaillé un certain moment pour le prix Nobel de Maurice Allais, était sur le plan philosophique, c'était un jugement sur l'économie extrêmement différent de celui que l'on a aujourd'hui. Mireille Delmas-Marty, là, c'est la question des critères de prévisibilité. Évidemment, si on... Je vais vous donner... Le temps passe, et je vais me borner à des remarques beaucoup trop lapidaires. En Libye, par exemple, pour quelqu'un comme moi, mettons, et pour bien d'autres, il était évident que le renversement de Kadhafi conduirait au chaos, à l'ingouvernabilité du pays. Pour autant, la question de savoir, il y a une question extraordinairement difficile et qui est d'un autre ordre, c'est que pouvait-on laisser Kadhafi continuer à exterminer une partie de sa population. Bon, nous sommes là dans des situations où on doit porter un jugement à plusieurs degrés, mais disons que la prévisibilité de la situation qui a été engendrée par l'élimination de Kadhafi, qui elle-même d'ailleurs, où on est sorti, où les alliés sont sortis du cadre de la résolution de l'ONU, il y avait une prévisibilité de base, mais ensuite il n'y avait pas de prévisibilité de détail, justement à cause de tous ces phénomènes micro, etc. Alors sur la question de la Cour la Cour pénale internationale. Alors ça, c'est peut-être parce que vous voyez évidemment les choses profondément d'un point de vue juridique. Moi, je n'y attache pas, du point de vue de l'analyse des relations internationales, le même type d'importance. Sauf qu'il y a un point que je soulève, là aussi, pour ne pas... C'est une question que je soulève au passage, mais je ne prétends pas y résoudre. C'est qu'un des problèmes de la Cour pénale internationale, c'est que à partir du moment où un chef d'État qui se voit... dans une situation délicate, se dit « si je suis pris, je vais être condamné », eh bien, évidemment, il risque d'être jusqu'au boutiste. Donc, il y a un effet de rétroaction qui peut être très important, mais qui est d'un autre ordre. Alors, Jacques de La Rosière, si vous me permettez, je pense que c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas opposé la macroéconomie qui serait facile à prévoir à la microéconomie qui serait difficile. C'est plutôt ce que j'ai dit, c'était plutôt au propos de la politique en l'occurrence, où j'ai dit que plus on fait de l'analyse politique à grosse échelle, du genre tout empire périra, toute dictature tombera, où les mouvements migratoires se poursuivront, etc. Et plus ces prévisions sont faciles, mais en même temps elles ne sont pas détaillables dans leur forme, elles ne sont pas très utiles parce qu'on ne peut pas les détailler dans leur forme et surtout on ne peut pas les dater. C'est ça que j'ai dit. Sur l'économie, la macroéconomie donne lieu à des exercices de finesse tout autant que, et même plus d'ailleurs que la microéconomie, parce que la microéconomie en réalité est un exercice purement théorique. C'est un exercice de logique en réalité, c'est un exercice formel, la microéconomie dans son état actuel. Par conséquent, je pense que nous sommes en réalité tout à fait d'accord et je vois, vous avez cité quelques exemples, mais il y en a d'autres. Par exemple, dans les années 70 et 80, les Japonais prévoyaient exactement toutes les conséquences du vieillissement des populations, des retraites, etc., etc. Nous-mêmes, nous avions toutes les possibilités de prévoir l'évolution dans ce genre de domaine et nous n'avons absolument pas pris les décisions qui s'imposent. Et c'était même dans des situations plus simples encore à prévoir que celles que vous avez décrites. Et donc là, la véritable question, c'est que l'économie et la politique joue sur des registres complètement différents. Et hélas, les hommes politiques, ça c'est vrai d'ailleurs pour tous les régimes, démocratiques ou non, sont essentiellement court-termistes dans leur mode de fonctionnement. Alors, pour Jean Ménard, ben, je vous remercie, et d'ailleurs je suis conscient, parce qu'on a même d'ailleurs déjà parlé, tous les deux, de ces questions. Là où, comme je l'ai déjà dit, j'ai des doutes, c'est que je ne pense pas l'esprit de finesse, ce qui fait d'ailleurs le coup d'œil des stratèges, n'est-ce pas? On parlait du coup d'œil de Napoléon. Clausewitz, qui est un auteur que j'ai étudié d'extrêmement près, parle fondamentalement du coup d'œil dans le génie stratégique. La différence entre un laborieux et entre quelqu'un qui est laborieux et quelqu'un qui est doué dans tout domaine, c'est que le laborieux va passer des heures et ne trouvera peut-être pas l'essence de la question, alors que le doué, il va le trouver en une fraction de seconde. Allez donc savoir pourquoi. Alors, moi, je pense que l'explication de la rationalité compressée, j'avais eu ce sujet un jour, une conversation aussi passionnante avec Raymond Boudon, mais je serais convaincu le jour où il y aura une forme de démonstration, la rationalité pour moi, ou alors il y a peut-être une question de définition, la rationalité passe par une construction d'étapes logiques conscientes. Si vous me dites qu'il y a une succession de phases logiques qui se passent dans l'inconscient, ben, c'est possible, mais j'attends que ce soit démontré. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il y a quand même une distinction extrêmement importante. Alors, pour finir, Jean-Claude Trichet, trois points. Incertitude non probabilisable. Alors oui, bien sûr, là, il faut voir que d'un point de vue mathématique, la théorie des probabilités, la notion de probabilité ne fonctionne que dans des cadres extrêmement restreints. Je parle des probabilités qu'on appelle objectives. Alors, on peut théoriser sur les probabilités dites subjectives, mais les probabilités objectives, ça ne fonctionne que dans des cadres extrêmement restreints, et les situations auxquelles convient le calcul des probabilités sont en fait extrêmement limitées. Je pense par exemple aussi à des gens qui théorisent sur les multi-univers et qui cherchent qui cherche à démentir la conception anthropique de la vie, hein, c'est-à-dire, parce que vous savez qu'il suffirait de modifier un tout petit peu les constantes physiques pour que la vie ne soit pas possible. Bon, et donc il y a toute une théorie qui dit, mais il y a un nombre infini d'univers, et donc il y en a bien un qui convient à la vie. C'est très bien, mais ceci, c'est purement abstrait, c'est complètement spéculatif, et ça n'a pas de valeur, c'est un jeu intellectuel pur. Unknown, unknowns, alors là, absolument. Et j'en donne un exemple dans l'ordre de la découverte scientifique. Vers 1860, quand il y avait la controverse entre Darwin le futur Lord Kelvin, William Thomson, Darwin commençait à raisonner en termes de millions, voire de milliards d'années, et Kelvin expliquait, en pontifiant du haut de sa chaire de physique, que l'univers ne pouvait pas être plus vieux de 80 000 ans, c'est l'âge maximum, et ceci résultait de calculs conformes aux connaissances physiques de l'époque. Qu'est-ce qui a réglé ça? C'est la découverte de l'énergie atomique. Eh bien, en 1860, il était inconcevable. L'énergie atomique était littéralement inconcevable. Voilà, dans l'ordre des sciences de la nature, un très bel exemple, je crois, du unknown unknown, c'est-à-dire de l'inconnu pur et total. Et quant aux propriétés émergentes, oui, parce que je crois que les propriétés émergentes sont... Il y a des aspects qui sont prévisibles. Je crois que Fontenelle avait imaginé déjà les voyages spatiaux, etc. Il y a des textes célèbres en termes de prévisions très, très, très générales. Mais quand on regarde Bernard Case, mort récemment, a écrit une magnifique histoire des futurs, dans lequel il montre historiquement comment, à différentes époques, on se représente la situation 50 ans après. C'est très amusant à lire parce que, évidemment... Il y a les propriétés réellement émergentes sont très largement supérieures aux propriétés prévues. Et là, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quel regard je porte? Je pense, cher Jean-Claude, qu'il ne peut pas être très différent des tiens, c'est-à-dire qu'on se laisse encore aller, on n'est pas suffisamment allé à la racine des difficultés qui ont engendré les crises passées, et je pense qu'un retour à des crises qui ne seraient par définition pas exactement les mêmes que celles que nous avons eues en 2008 est possible. Mais là aussi, quand et comment? Je crois que personne ne peut le dire. Enfin, gouverner, c'est prévoir. Alors, je dois dire que je suis pas sûr d'avoir absolument compris la question.
Quelle est l'option entre gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est gouverner? Enfin, c'est toute la montée vers l'exonomique, oui. Où le cartésien est attaché à l'économie et le pascalien est attaché, d'accord, à l'exonomique.
Enfin, prévoir, c'est gouverner, non, parce que y a des gens très éminents qui peuvent prévoir et voir les choses, et pour autant, ils ne sont pas et ne seront sans doute jamais en situation de gouverner. Et gouverner, c'est prévoir. Je pense que ça nous ramène à la question du politique ou de la politique. La prévision, pour la plupart des cas, concerne la survie des hommes politiques eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de poser le problème. Mais là, je termine d'une manière un petit peu triviale, mais il est une minute avant 5 heures, et je crois donc mon devoir de m'arrêter ici.